Notre Seigneur, dans les évangiles, demande aux apôtres « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Cette citation, cette question qui se pose aux apôtres, se pose également à nous-mêmes. Nous savons, de par notre foi, de par le catéchisme, que Jésus est vrai Dieu, que Jésus est vrai homme, que Jésus est l'homme-Dieu. Cet enseignement, bien sûr, constitue le point de départ de toute la doctrine catholique. Si on le rejette, plus rien n'est accessible, plus rien surtout n'est compréhensible. On peut à ce moment-là arrêter complètement l'étude de la doctrine catholique. Mais ce point-là est-il vrai? Alors vous me direz, on espère. J'espère aussi. Et on va essayer, j'espère avec succès, de montrer que ce point-là est réellement véridique. Avons-nous réellement des motifs de croire que cette assertion, de croire qu'un homme ayant vécu à un moment donné de l'histoire était Dieu, est Dieu? N'est-ce pas une pure folie, tout simplement, de penser cela? Si l'on se penche un peu sur la question, il semble évident que, pour nos esprits avisés du XXIe siècle, croire qu'un homme ayant vécu à un moment donné de l'histoire soit Dieu, il semble bien que ce soit réellement une folie, voire une aberration d'intelligence. Folie d'autant plus évidente que l'on ne peut, dans ce domaine-là, démontrer la véracité de l'assertion par une simple conquête, par une simple avancée de l'intelligence. Ce matin, par rapport à l'existence de Dieu, M. l'abbé Lucien vous a expliqué qu'il y avait, dans ce domaine-là, on pouvait l'atteindre sur deux aspects différents, le domaine de la foi et le domaine de la raison. Pour nous, sur le sujet qui m'est imparti cet après-midi, sur le domaine de la divinité de notre Seigneur, on doit partir justement du donné révélé. Une conquête simplement intellectuelle ne peut suffire. On doit donc, comme je vous le disais, partir du donné révélé, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Seul Dieu, en effet, peut nous éclairer sur ce qui est, sur l'existence ou non de l'homme-Dieu, donc de la divinité de notre Seigneur. Alors, en une seule conférence, nous n'aurons pas le temps de prouver la vérité historique des évangiles. Ça rentrerait, il faudrait bien plus de temps que cela pour montrer ce point-là. Il nous faudra donc partir du magistère. Alors, il y a plusieurs références, je vais vous en citer une, c'est une citation du Concile de Trente, session 4, décret de canonicis scripturis. Donc je vous cite un passage du décret. « C'est pourquoi le même concile reçoit et vénère avec le même sentiment de piété et le même respect tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, puisque Dieu est l'auteur unique de l'un et de l'autre. Si quelqu'un ne reçoit pas ces livres sacrés et canoniques dans leur totalité, avec toutes leurs parties, telles qu'on a coutume de les lire dans l'Église catholique et qu'on les trouve dans la vieille édition de la Vulgate latine, s'il méprise en connaissance de cause et en propos délibérés les traditions susdites, qu'il soit anathème. » Vous retrouverez en substance la même chose dans le Concile Vatican I et dans le Concile Vatican II, dans la Constitution Dei Verbum. Une fois ce point admis, puisqu'on n'aura pas l'occasion en une heure de prouver la véracité des évangiles, une fois ce point admis comme préalable, il va donc falloir pour nous établir que les livres du Nouveau Testament attestent de la divinité de l'homme historique, Jésus de Nazareth. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler un point qui me semble important. Si par une simple conquête intellectuelle, on ne peut démontrer la divinité de notre Seigneur, la foi n'est pas purement irrationnelle. Un bon nombre de théologiens, et la doctrine de l'Église le confirme et l'atteste, nous explique que dans l'acte de foi, notre Seigneur, Dieu, nous demande un assentiment de l'intelligence, c'est-à-dire un accord de l'intelligence. Bien sûr, on ne peut pas tout comprendre de la foi, on ne peut pas tout comprendre du mystère de Dieu. Comprendre Dieu, cela voudrait simplement dire être Dieu. On le verra un petit peu plus tard, parce qu'on aura à y revenir dans la question qui nous intéresse. Mais Dieu nous demande quand même cet accord préalable, cet assentiment de notre intelligence quant à l'acte de foi. D'accord, mon Dieu, je ne comprends pas tout. Mais j'accepte et mon intelligence acquiesce à ce que vous m'enseignez. Ensuite, ce qu'il faut voir également, c'est que dans cet acte de foi, Dieu nous donne deux aides. Premièrement, une aide intérieure, qui est l'aide du Saint-Esprit. Et deuxièmement, une aide extérieure, les miracles et les prophéties, qui viennent justement confirmer ce que nous savons, ce que nous croyons par notre foi. Alors sur le sujet de la divinité de notre Seigneur, on pourrait parcourir les différents évangiles, essayer de voir Saint Jean, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc. J'ai essayé de restreindre, au moins dans une première partie, à l'évangile de Saint Jean. Déjà parce que le temps imparti est assez court, et ensuite parce que Saint Jean, dans son évangile, est en même temps le plus explicite et en même temps celui qui va peut-être nous permettre de prouver le plus l'assertion que nous essayons de démontrer. Alors on ne regardera pas la valeur historique du témoignage de Saint Jean sur le sujet de notre enquête, nous allons regarder ici simplement la portée du témoignage en lui-même, car c'est sur lui que va porter la foi traditionnelle de l'Église. Saint Jean veut-il nous faire croire que le personnage qu'il décrit est le véritable Jésus de Nazareth, tel qu'il s'est présenté lui-même, ou bien veut-il nous présenter simplement une élaboration théologique telle qu'il pouvait la connaître dans les communautés chrétiennes dans lesquelles il vivait et qu'il connaissait à son époque? Il est inutile de préciser que, si on retient la deuxième hypothèse, les personnes qui vivaient à son époque auraient eu conscience non seulement du montage qu'avait fait Saint Jean, mais en plus du caractère fictif des paroles et des actes de notre Seigneur. Il faut noter ensuite que ce procédé, je vais y revenir juste après, ce procédé était assez courant dans la littérature juive de l'époque. C'est ce que l'on appelle un midrash. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais pour vous prendre une comparaison, je pense que vous connaissez tous l'auteur Sartre. Sartre emploie dans certains de ses écrits ce qu'on appelle un procédé de fiction où il mélange histoire et fiction afin de transmettre sa doctrine philosophique. L'intention de Sartre n'est absolument pas de tromper son public, c'est-à-dire de faire croire que ce qu'il décrit est la réalité telle qu'elle s'est passée. Elle est simplement de transmettre une doctrine philosophique au travers d'exemples plus ou moins concrets et plus ou moins romancés. Un midrash, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à tromper sur le caractère historique lorsque l'on l'emploie, on cherche simplement à transmettre une doctrine au travers d'une vie plus ou moins romancée. Donc, Saint Jean cherche-t-il simplement à faire œuvre d'historien, on va dire, catholique et théologien, ou alors cherche-t-il à nous transmettre la foi de notre Seigneur, enfin la foi en notre Seigneur, telle qu'il la vivait, telle que la vivaient les communautés chrétiennes de son époque? Alors ici, la réponse est claire et nette, on va le démontrer. Saint Jean n'a absolument pas voulu écrire un midrash. Il n'a voulu nous montrer Jésus, ses actes et ses enseignements, seulement tels qu'ils furent et rien d'autre. Bien sûr, il faut prendre en compte le style littéraire et historique de son époque. Mais ceci mis à part, Saint Jean est persuadé de nous transmettre la réalité de Jésus de Nazareth, dans sa réalité historique, justement. Ceci se voit dans le but qu'il cherche à atteindre. Saint Jean nous le dit lui-même, convaincre de la divinité du Christ ceux qui n'y croient pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à la fin du 1er siècle, de nombreux chrétiens, essentiellement issus du judaïsme, ne croyaient pas à la divinité du Christ. Ils niaient même la réalité de l'incarnation, ne voyant en Jésus qu'un homme et rien de plus. Il suffit pour s'en convaincre, alors je vais vous citer deux auteurs, de relire premièrement Saint Justin dans son dialogue avec Typhon et Saint Irénée dans l'Adversus Hérésée, qui témoignent qu'au 2e et 3e siècle, donc bien après saint Jean, il y avait encore à cette époque-là des hérésies qui concernaient l'incarnation de notre Seigneur. Et saint Jean lui-même, dans ses épîtres, témoigne et accuse d'être des antéchristes ceux qui nient la réalité de l'incarnation. Enfin, saint Jean nous dit au chapitre 20, versets 30 et 31 de son évangile, Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là, donc ceux qu'il cite, ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son. Alors, saint Jean nous parle des miracles, les signes qu'a fait notre Seigneur. Les signes mentionnés ont un double but. Prouver, premièrement, que le Christ est le Messie, puisque par ces signes, il accomplit les prophéties qui ont été réalisées et qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament. Et ensuite, prouver qu'il est le Fils de Dieu. On pourrait se demander, cependant, en quel sens saint Jean entend le terme « Fils de Dieu ». Là-dessus, tous les exégètes, on va dire catholiques et moins catholiques, sont d'accord sur ce terme, c'est-à-dire que saint Jean entend réellement le terme « Fils de Dieu » au sens transcendant, c'est-à-dire de la divinité, dans le même sens que saint Thomas l'apôtre l'a confessé au moment où il s'est retrouvé face à notre Seigneur. Ce qu'il nous faut bien saisir, c'est que les signes qu'accomplissait saint Jean peuvent bien sûr prouver que Jésus est Dieu, mais au sein du peuple juif, si vous vous souvenez un tout petit peu de l'histoire sainte, ce peuple juif qui avait connu tant de simples mortels envoyés par Dieu et qui avait accompli des miracles, ces signes ne suffisaient pas par eux-mêmes dans le contexte de l'époque. En revanche, ces signes étaient amplement suffisants pour venir confirmer le témoignage que notre Seigneur apportait, c'est-à-dire pour venir confirmer ce qu'il disait et ce qu'il enseignait au travers de ses paroles. C'est donc une attestation supplémentaire par rapport à l'enseignement de notre Seigneur. Ensuite, nous verrons si, oui ou non, notre Seigneur a enseigné qu'il était Dieu. Ça, c'est un autre problème. Ces signes, donc, manifestent à l'extérieur une réalité intérieure bien plus grande. Souvenez-vous tout simplement de la guérison du paralytique que nous rapportent les trois évangélistes, les trois premiers évangélistes. Je vous cite, c'est saint Matthieu chapitre 9, verset 6, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de remettre les péchés, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Ou bien encore chez saint Jean, cette phrase de notre Seigneur, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, du moins croyez-le à cause de mes œuvres. » Saint Jean, chapitre 14, verset 11. Donc, les miracles de Jésus attestent de la véracité de son enseignement. Par conséquent, deux possibilités s'ouvrent à nous. Soit saint Jean est un vulgaire faussaire, soit il est convaincu et veut nous convaincre que Jésus a enseigné qu'il était Dieu et qu'il a confirmé son enseignement par des miracles. Notons bien qu'à ce stade de notre recherche, on pourrait dire de notre enquête, nous ne supposons pas, on ne peut pas supposer encore de la vérité de l'affirmation « Jésus est Dieu ». Il ne faut pas oublier que dans le contexte du premier siècle, la divinité, je vous l'ai déjà dit, de notre Seigneur est niée par beaucoup. Dans cette situation, le quatrième évangile revêt obligatoirement un caractère polémique du fait de sa prise de position très nette. Saint Jean, dans son évangile, affirme très nettement la divinité de notre Seigneur. Par conséquent, les paroles du Christ ont pu être précisées à la lumière de la résurrection, ce qui d'ailleurs a été confirmé et explicité par le deuxième concile du Vatican dans la constitution Dei Verbum. Je vous cite, « En effet, ce que le Seigneur avait dit et fait, les apôtres, après son ascension, le transmirent à leurs auditeurs avec cette intelligence plus profonde des choses dont eux-mêmes, instruits par les événements glorieux du Christ, et éclairé par l'esprit de vérité, jouissait. » Mais il est clair, en revanche, que saint Jean avait la conviction de transmettre de façon fidèle ce que Jésus avait enseigné et fait durant sa vie terrestre. Les mots et le contexte, bien sûr, pouvaient se retrouver modifiés, mais l'essence même du message de notre Seigneur était intacte, préservée. Et ce message touche justement la divinité du Christ. Si l'évangéliste n'avait pas été persuadé de cela, s'il avait pensé que Jésus ne se serait pas reconnu dans ce que lui-même disait à propos de lui, alors saint Jean n'aurait été qu'un misérable imposteur. J'espère que parmi nous, personne ne pense cela, mais il faut quand même envisager le cas. Car il aurait voulu alors convaincre ses lecteurs de ce que lui-même savait être faux. Pour comprendre un peu et saisir un petit peu l'énormité de la chose, essayez simplement d'imaginer sur un cas personnel, je laisse votre imagination débordante prendre le pas sur mes explications, d'imaginer un point que vous savez être parfaitement faux, soit concernant une personne en particulier, soit concernant un élément que le monde peut connaître, et que vous fassiez œuvre d'apologie en faveur de ce domaine que vous connaissez et que vous savez être faux. Déjà, il faut être quand même bien tordu au niveau intellectuel pour soutenir pendant des années et des années une telle position. Et en plus, vous voyez l'énormité de la chose par rapport à une œuvre historique et à une œuvre de foi. En revanche, quant à saint Jean, il est clair que, pour lui, il a la conviction de transmettre de façon fidèle ce que notre Seigneur avait enseigné et fait durant sa vie terrestre. Les mots et le contexte, donc, je vous avais dit, pouvaient se trouver modifiés. On peut cependant faire une nouvelle objection. On admet que saint Jean est convaincu de la divinité de notre Seigneur, est convaincu de faire œuvre d'historien et de retransmettre la réalité des faits. En revanche, on peut se demander si saint Jean est de bonne foi. Regardez encore au niveau des historiens, sur un même sujet, autant d'historiens, on ne va pas dire autant d'historiens, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui vont dans le même sens, mais on peut trouver des œuvres historiques, qui se veulent en même temps des œuvres d'histoire, et qui vont dans des sens contraires. Étant actuellement en Vendée, il suffit de regarder les guerres de Vendée pour voir que certains historiens soutiennent un certain nombre de positions quant à ces guerres de Vendée et que d'autres soutiennent exactement le contraire. Pourtant, on peut espérer, peut-être que je suis naïf dans le domaine, mais on peut espérer que les uns et les autres pensent vraiment ce qu'ils affirment dans leurs œuvres, donc font œuvre de vérité, même si l'un ou l'autre se trompe. Donc peut-être que saint Jean est persuadé de transmettre la vérité. Mais peut-être aussi qu'il se trompe de bonne foi. En revanche, ce que l'on peut affirmer à la fin de cette première petite partie, c'est la conviction de saint Jean. L'auteur du quatrième évangile est convaincu que le portrait qu'il a tracé de notre Seigneur, de Jésus de Nazareth, de ses actes et de ses paroles, est substantiellement, et je soulignerai le terme substantiellement, est substantiellement conforme à la réalité. Jésus est Dieu. Et s'il le sait, il le tient d'une source unique, la vie et les actions, ainsi que les enseignements du Jésus historique. Je m'excuse de faire cette division, mais dans notre enquête, puisqu'on n'a pas encore prouvé la divinité de notre Seigneur, c'est assez important. S'il le sait, donc, c'est de la part des enseignements du Jésus historique mieux compris grâce à l'Esprit-Saint. Et l'évangéliste écrit pour mieux faire partager sa conviction à ses lecteurs. L'aspect de la bonne foi de saint Jean n'est pas à remettre en cause. Maintenant, ce que l'on verra à la fin, c'est si saint Jean a fait vraiment œuvre d'histoire ou s'il s'est trompé, c'est-à-dire œuvre de vérité sur un plan purement concret, ou alors s'il s'est trompé de bonne foi. Ce que je voudrais maintenant que nous abordions, toujours dans le même sens, c'est l'étude historique de la tradition évangélique. En essayant un petit peu de réfléchir, en premier point, sur les conditions de la révélation à l'homme du mystère du Christ. Tout d'abord, vis-à-vis des disciples, cette révélation se heurte à un triple obstacle. Premièrement, à l'époque, Une mentalité religieuse qui était peu habituée à réfléchir sur Dieu et sa nature. La mentalité de l'époque était, vous voyez bien plus dans la religion, une action purement d'obéissance à la loi qu'une action de réflexion sur la nature divine et sur la connaissance de Dieu. Ensuite, une mentalité religieuse façonnée aussi, du fait de l'histoire du peuple juif, par le combat de l'idolâtrie ambiante. Et enfin, troisième point, une mentalité religieuse structurée par la pensée eschatologique et même apocalyptique, c'est-à-dire la certitude que la fin de toute chose était proche. On attend de cette fin qui verra bien sûr le triomphe de Dieu sur les ennemis d'Israël, donc en même temps une fin très matérielle, très matérialiste pourrions-nous dire, ainsi que le bonheur et la gloire du peuple élu et qui dominera à ce moment-là tous ses ennemis. Il est bien clair que dans ce contexte-là, la révélation ne peut être que progressive. Si vous prenez, pour encore une fois vous donner un exemple, vous connaissez tous, du moins je l'espère, sinon sortez un peu, vous connaissez tous quelqu'un qui soit n'a jamais entendu parler de la religion catholique, avec les médias actuels c'est peut-être un petit peu plus difficile, ou alors quelqu'un qui est complètement déformé sur ce qu'est réellement le catholicisme. Vous n'allez pas d'emblée lui transmettre un pavé de 500 pages sur le catholicisme en lui disant « Voilà, lis ça, t'auras tout compris. » Œuvre d'un, on peut prendre une œuvre d'un très grand théologien ou d'un apologiste extraordinaire. « Lis ça, tu seras sauvé, t'auras tout compris. » Non, vous allez y aller progressivement. Admettons que cette personne mène une vie pas forcément conforme aux règles de la morale catholique. C'est d'abord par l'exemple, on va d'abord attirer sur l'aspect humain, on va d'abord attirer sur un plan purement concret et naturel cette personne, et petit à petit lui transmettre un certain nombre de choses. Il y a une certaine pédagogie, une certaine progression dans l'enseignement. Et bien de la même manière, si on prend les trois obstacles que je vous ai donnés tout à l'heure, la révélation quant à la divinité de notre Seigneur, ainsi que les différents mystères de la foi chrétienne, ne peuvent être donnés d'un seul bloc, d'une façon monolithique, on pourrait dire. Il faut une certaine pédagogie, une certaine progression dans l'enseignement. Et pour cela, notre Seigneur devait faire face à un risque qui était assez important. S'il donnait d'un seul bloc, il pouvait se retrouver en face de trois choses. Soit, les gens pouvaient dire « Jésus n'est pas Dieu », soit « Il n'est pas homme », à chaque fois ce sont des hérésies qui ont quand même existé. Soit « Il y a plusieurs dieux ». N'oubliez pas que le mystère de la Sainte Trinité, après plus de 20 siècles d'approfondissement par les théologiens, reste quand même quelque chose d'extrêmement ardu à expliciter, et généralement aussi à recevoir. Peut-être que parmi vous, certains sont capables de m'expliquer en long, en large et en travers le mystère de la Sainte Trinité, j'en serais ravi. C'est pas forcément l'élément le plus facile à communiquer et à expliquer à des personnes qui ne croient pas la même chose que nous. Au premier abord, c'est pas forcément par là non plus que vous allez commencer quand vous abordez la foi catholique. Si vous prenez une conversation avec un musulman, attendez un petit peu avant de commencer par là, parce que vous êtes sûr de braquer le type dès le départ. Donc notre Seigneur devait faire face aussi à ces trois points. Donc dans la révélation de notre Seigneur, face aux trois points et aux trois obstacles qui se montaient face à lui, on pourra constater, avec l'aide des exégètes, trois stades dans la révélation de sa divinité. Premièrement, dans un premier stade, notre Seigneur va révéler non pas tout ce qui pouvait être compris, mais tout ce qui pouvait être accepté et assimilé sans erreur, étant donné la mentalité ambiante dont on vient de parler. Enseignement qui s'adresse principalement aux foules. Plusieurs fois dans les évangiles, notre Seigneur s'adresse à l'ensemble des foules, et parle surtout par parabole. Dans un deuxième stade, il va se centrer surtout sur la formation d'un groupe de disciples qui est attiré par le maître, qui a, outre une attirance justement quant à la conviction du messianisme de notre Seigneur, aussi un attrait naturel, une proximité naturelle avec lui, et donc qui seront plus à même d'accepter ce qui les dépasse. Et enfin, dans un troisième stade, notre Seigneur fera une sélection à l'intérieur de ce groupe pour choisir les privilégiés. Je reviendrai un petit peu après sur ce terme-là, parce que avec les œuvres pseudo-littéraires actuelles ou cinématographiques, j'entends par là le Da Vinci Code, on pourrait voir une espèce de secret au sein de l'Église catholique. On va voir, on verra à la fin que ce n'est pas du tout le cas. Donc un groupe de privilégiés à qui une doctrine plus haute sera confiée afin de l'annoncer aux autres par la suite. Je vais donc commencer par l'enseignement public de notre Seigneur. Cet enseignement public, je le découperai en trois phases dans l'enseignement de notre Seigneur. La première phase étant l'enseignement où notre Seigneur est vu comme un blasphémateur. Je voudrais ici attirer l'attention sur un point qui n'est guère contesté au niveau des exégètes. Il semble que, selon la tradition la plus primitive, notre Seigneur ait été accusé de blasphème par ses contemporains, parce qu'il usurpait les prérogatives qui étaient habituellement attribuées à Dieu. Alors l'accusation de blasphème de la part des autorités juives est formulée de façon explicite en Saint Matthieu chapitre 26 verset 65, Saint Marc chapitre 14 verset 64 et de façon implicite en Saint Luc chapitre 22 verset 71, Saint Jean chapitre 19 verset 7. Je m'excuse pour ces références à l'Écriture sainte, mais on est dans un domaine où on doit s'appuyer et se référer de façon habituelle à l'Écriture sainte. Alors de quel blasphème s'agit-il ? Dans la tradition rabbinique, trois types de blasphèmes à l'époque étaient reconnus. Soit prononcer le nom de Yahvé, soit dire publiquement une expression du type « Dieu soit maudit », a priori. La première, prononcer le nom de Yahvé, on ne la retrouve pas dans l'Écriture sainte, pas de façon explicite. Prononcer une expression du type « Dieu soit maudit », en tout cas j'en ai pas vu dans les évangiles, ça semblerait un peu bizarre quand même dans la bouche de notre Seigneur. Il ne reste donc que la dernière, qui consiste simplement à utiliser des prérogatives divines. Et ça, en revanche, nous en avons plusieurs preuves, dont l'une qui nous dit « Comment peut-il parler ainsi ? Il blasphème. Qui peut, si ce n'est Dieu, remettre les péchés ?» Souvenez-vous, on a cité ce passage-là juste avant, sur la guérison du paralytique. Afin de prouver que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Il faut noter que dans la Bible, ainsi que dans la littérature juive de l'époque, aucun personnage n'appartenant au peuple juif n'avait été accusé de cela. Nous sommes donc en présence ici de quelque chose d'absolument unique. Il ne peut donc y avoir à cette accusation qu'une seule explication, c'est que le comportement, l'attitude extérieure du Christ puisse permettre de porter cette accusation. C'est-à-dire qu'effectivement, dans son attitude, dans ses gestes ou dans ses paroles, quelque chose puisse laisser réellement penser qu'il se comporte comme utilisant des prérogatives divines. Deuxième point, Jésus législateur. Je pense que vous connaissez tous, au moins de nom, peut-être, le sermon sur la montagne. Dans ce texte, il y a un point qui revient comme un refrain. Il a été dit, moi je vous dis. Il a été dit, moi je vous dis. Cette formule introduit une modification de la loi de Moïse dans le sens d'une exigence plus grande. Alors certes, dans la littérature juive postérieure, ainsi que dans les écrits rabbiniques, il y a eu également des modifications, en vue d'une exigence plus grande, de la loi de Moïse. Seulement, dans ces cas-là, personne ne s'était attribué le pouvoir de dire « Moi, je vous dis que vous devez faire cela en plus. » si on regarde la polygamie, la restriction à la monogamie, c'est une restriction purement juridique et simple dans le domaine ultérieur. Notre Seigneur, lui, exige de sa part, donc avec un pouvoir de législateur, un certain nombre de points. Même si notre Seigneur ne prend pas le contre-pied de la loi, et à aucun moment il ne le prend, il invite à aller plus loin dans une même direction. Cependant, là, il y a quelque chose d'inouï. Il se pose réellement comme législateur. Notre Seigneur ne dit pas comme Moïse, lorsqu'il annonce les différentes lois, « Voici les commandements, les lois, les ordonnances que le Seigneur, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. » Il ne dit pas non plus comme les prophètes, « Ainsi parle le Seigneur, votre Dieu. » Il affirme tranquillement, « Moi, je vous dis. » Dans les différentes parties qui vont suivre, je vais aussi faire appel à votre imagination. Imaginez simplement que ce soir au dîner, l'un des dirigeants du RJC ou l'un des clercs ici présents vous disent « Il vous a été dit de ne pas manger de poisson, enfin de ne pas manger de viande, lapsus révélateur, pas manger de viande le vendredi. Moi, je vous dis, à partir d'aujourd'hui, vous ne mangerez plus de viande aucun jour de la semaine. » Vous allez dire, l'abbé, il pète les plombs, là. Il est gentil, mais où est-ce qu'il a vu ça? Et pourtant, vous êtes dans un contexte différent. Revenez avec les éléments de la mentalité religieuse que je vous ai donné au préalable, et imaginez-vous dans le contexte de l'époque. Il vous a été dit, moi je vous dis. Vous êtes qui pour nous dire ça? Vous avez une autorité? Vous avez un badge? Non, j'ai que ma soutane, c'est tout. Bah oui, mais il faut quand même soit un sacré culot, soit avoir une autorité supérieure. Ça, c'est sur le point de notre Seigneur un petit peu législateur. En plus, il s'agit sur ce plan-là d'une parole authentique de notre Seigneur. Je vais vous expliquer un peu ce terme de parole authentique. Je vais restreindre dans mes citations de l'Écriture sainte à ce que l'ensemble des exégètes reconnaît comme parole historique de notre Seigneur. Non pas qu'on soit forcément d'accord avec tous ces exégètes, mais lorsque l'on fait une étude ou une présentation critique d'un domaine, ou du moins qu'on essaye de faire une enquête, on restreint à l'élément le plus sûr, même si on n'est pas d'accord avec le rejet de certains éléments. Donc, certains exégètes rejettent certaines paroles, certains passages des évangiles, comme n'étant pas forcément véridiques sur le plan historique. Donc, dans cette étude, je me restreins aux éléments qui sont reconnus par l'ensemble des exégètes catholiques, et comme je vous le disais avant, même moins catholiques, afin de ne pouvoir être contesté sur les citations que l'on donne. Cette parole-là, ces paroles-là de notre Seigneur, sont reconnues par tous. L'un même dit « Jésus dispose souverainement de la loi et de la tradition, qu'il interprète, approfondit et même corrige. » Il s'agit du père Benoît, dans son ouvrage « La divinité de Jésus ». Il s'égale ainsi au législateur, c'est-à-dire à Dieu. La loi de Moïse avait été promulguée par Dieu. Moïse l'avait reçue de Dieu. Dans cette même perspective, il nous faut regarder une autre parole de notre Seigneur, qui est peut-être encore un peu plus flagrante. « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Cette citation est tirée de saint Matthieu, chapitre 10, verset 37. Imaginez un tout petit peu l'énormité de la chose. Si je vous dis, vous êtes tous en admiration absolue devant moi, si je vous dis « qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi », j'espère qu'il va quand même y avoir un minimum de réaction au sein du public. Souvenez-vous quand même des commandements de Dieu. « Tu honoreras ton père et ta mère ». Ça veut dire que pour exiger cela, soit on se place au-dessus des commandements de Dieu, soit on est réellement au-dessus, puisqu'on est Dieu. Donc soit c'est un orgueil démesuré, soit il y a quelque chose, encore une fois, en plus. Je veux bien que vous m'aimiez plus que votre père et votre mère, mais bon, ça pose quand même un petit problème de morale derrière. Et pourtant, notre Seigneur affirme, qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. A priori, dans les commandements, la seule chose qui puisse être au-dessus, c'est l'amour que l'on doit à Dieu. Une fois de plus, on a une parole sans précédent. Personne n'a jamais affirmé ça dans l'histoire sainte. Personne n'a eu ce culot-là. En effet, qui pourrait exiger une telle chose ? Qui, s'il n'est pas Dieu, peut demander qu'on lui voue un amour supérieur à ce qu'exigent les commandements de Dieu ? Ensuite, troisième point, Jésus, en tant que fils de Dieu. Alors, dans les textes authentiques, entre guillemets, souvenez-vous de ce que je vous ai dit juste avant, Jésus se désigne une seule fois comme fils de Dieu dans son enseignement public. Notez aussi cette distinction-là. Il s'agit de la parabole des vignerons homicides, que vous retrouverez chez, entre autres choses, Saint Marc, chapitre 12, versets 6 à 8. Dans cette parabole, on s'en souvient, un homme plante une vigne et la loue à des vignerons, qui maltraitent ou tuent les serviteurs qu'il leur envoie pour percevoir les fruits de la vigne. Et l'Évangile nous dit, il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il le leur envoie, et ces vignerons tuent le fils bien-aimé. Comme le remarquent tous les commentateurs, l'allégorie est claire. Le propriétaire est Dieu, les serviteurs sont les prophètes, le fils bien-aimé est Jésus. Par conséquent, on doit noter qu'ici, Jésus se présente clairement comme le Fils de Dieu, contrairement aux prophètes qui ne sont que des serviteurs. Il y a donc une distinction réelle, au travers d'une parabole, certes, mais une distinction réelle que fait notre Seigneur entre les prophètes et lui-même. Il est au-dessus des prophètes. Dans cette deuxième partie, donc qui concerne l'enseignement public de notre Seigneur, on peut dire que lorsqu'il parlait à un auditoire plus large que les seuls disciples, Jésus a insinué qu'il était plus grand que tous ceux qui, avant lui, avaient été envoyés par Dieu. Bien plus, il a manifesté qu'il avait avec Dieu un lien de proximité unique, incomparablement supérieur à celui des envoyés du passé, car lui seul est le Fils et le Fils bien-aimé. Enfin, il a montré qu'il disposait d'un pouvoir qui appartenait à Dieu seul, pouvoir législatif et pouvoir de remettre les péchés. Comme dans toute enquête un petit peu sérieuse, on va essayer de restreindre maintenant et de centrer de plus en plus sur notre cible. On va restreindre à l'enseignement que notre Seigneur a donné aux disciples. Alors cette distinction entre l'enseignement donné aux disciples, l'enseignement donné aux foules, ce n'est pas une pure invention, une pure originalité de ma part. Elle vient des évangélistes eux-mêmes. Les évangélistes, parfois, nous disent « Jésus disait aux foules, Jésus disait aux disciples », ainsi de suite. Il nous faut donc, pour continuer notre enquête, progresser dans la découverte de la divinité du Christ. Et donc, pour cela, respecter cette distinction qui nous vient des évangélistes et qui n'est somme toute absolument pas anodine. Souvenons-nous, pour mieux comprendre et pour ne pas perdre cela de vue, les trois points cités précédemment sur le contexte de la pensée religieuse de l'époque. Jésus manifeste davantage à ses disciples qui il est, car ils sont plus proches, plus à même de comprendre et d'accepter les révélations qu'il va faire. Il se montre pour eux comme le Fils, celui qui dit « Abba », c'est-à-dire « Père », voire même comme « Abba », une connotation un peu plus familière, pourrait dire « Papa ». On va essayer ici de s'arrêter sur deux textes, ne pouvant tout parcourir. Alors les deux textes sont d'une part Saint Marc, chapitre 13, verset 32, et d'autre part Saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 27. Le premier texte est celui qui concerne l'ignorance quant au jour du jugement. Quant à la date de ce jour ou à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, personne sauf le Père. Pourquoi choisir ce texte alors qu'il pose, à côté de cela, un problème, entre guillemets, au niveau dogmatique, au niveau théologique? Tout simplement parce que personne ne nie ici l'authenticité de ces paroles. Souvenez-vous, dans un contexte où certaines personnes niaient la divinité et la réalité de l'incarnation, retrouver ces paroles dans les évangiles alors que notre Seigneur dit « Personne, ni les anges du ciel, ni le Fils, si ce n'est le Père, ne connaît le jour du jugement », est un passage assez ambigu quant à la connaissance de notre Seigneur vis-à-vis du fait qu'on introduit une certaine ignorance. Je vais y revenir légèrement après. Donc tout le monde admet que ces paroles, si elles ont été maintenues, c'est qu'elles ont été réellement prononcées par Jésus. Alors, quant au problème de l'ignorance, je ne vais pas m'y arrêter là, parce que, en tout cas très longuement, je vais juste vous donner quelques références. Je ne vais pas m'y arrêter, parce que ça relève d'un autre traité, c'est le traité du De Christo Salvatore, donc de notre, enfin, traité sur notre Seigneur. Vous pourrez cependant, si certains ont des ouvrages, sinon peut-être que vous avez Internet, et on trouve tout cela sur Internet, trouver les références dans la Somme théologique de saint Thomas, dans la troisième partie, Tertia Pars, à la question numéro 10, article 2, ad primum, c'est ce qu'on appelle la réponse à la première objection formulée dans saint Thomas dans son article, ou sinon dans un des textes du magistère que l'on trouve dans un ouvrage qui s'appelle le Denzinger, on pourrait dire un peu un compendium des textes du magistère, au numéro 248. Je ne vais pas m'arrêter plus que cela là-dessus, sinon on va faire des digressions qui n'en finissent plus. Mais dans ces textes-là, ou alors après la conférence, lors des discussions, si vous avez des personnes bien plus compétentes que moi pour vous répondre dans ce domaine-là, Père Lumière ou l'abbé Lucien. Mais c'est l'ignorance de notre Seigneur dans ce domaine-là est un faux problème. On peut y répondre entre guillemets assez facilement. En revanche, ce que je voulais faire remarquer ici en prenant cette citation-là, outre le fait qu'elle ne pouvait être contestée, c'est que le Jésus qui parle à ce moment-là se présente comme le Fils de Dieu, comme le Fils et Dieu comme le Père. D'autre part, on peut noter dans sa présentation comme un crescendo. Les anges dans les cieux, le Fils, puis le Père. Le Fils est donc mentionné entre deux êtres célestes, deux entités célestes, plus exactement, les anges, le Père. Et insinue donc qu'il est lui-même de nature céleste. Enfin, le fait de mentionner de façon jumelée le Père et le Fils indique une certaine corrélation entre le Père et le Fils. Sans que l'on puisse parler d'égalité, on doit noter, parce que le texte ne le permet pas, on doit noter une certaine sphère d'existence commune entre le Père et le Fils. Le deuxième texte est le suivant, donc saint Matthieu. « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Alors, que nous apporte ce texte en plus par rapport au texte précédent? On retrouve bien sûr les éléments déjà vus, mais il va quand même plus loin sur deux points particuliers. Déjà, Jésus prétend avoir une connaissance du Père incomparablement supérieure à celle des autres créatures. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. On peut ajouter en passant que la connaissance des hommes, par rapport à ce que notre Seigneur peut nous dire, est comme une non-connaissance, une absence de connaissance, pour être plus exact, une connaissance négative, c'est une connaissance. Nous connaissons Dieu parce qu'il n'est par ce sur quoi il n'est pas, plus par ce sur quoi il est, contrairement au Fils. Ensuite, deuxième point, dans ce que dit notre Seigneur, Dieu est seul à connaître le Fils. Déjà, oser prétendre que je suis le seul à connaître le Père, quand même déjà un peu culotté, qu'à preuve du contraire, nous avons tous ici présents la même nature, la nature humaine, et donc une intelligence limitée. Certains plus que d'autres, surtout moi, je vous rassure. Tous une intelligence limitée, donc restreinte. Et estimer, pouvoir affirmer, moi je connais le Père, je suis le seul à connaître le Père, c'est estimer avoir une intelligence qui ne comporte pas de limite, puisque Dieu est infini. Comprendre Dieu, connaître Dieu, c'est avoir une intelligence sans limite, sans borne. Il faut déjà oser, si on n'est pas Dieu. Ensuite, affirmer « Nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père ». Alors bien sûr, nous avons tous des petits secrets, des défauts cachés, que les autres ne veulent pas savoir. Plus ou moins de talents, plus ou moins de choses que l'on voudrait cacher jusqu'à la fin de nos jours. N'oubliez pas quand même qu'à la fin de notre vie, au moment du jugement dernier, tout sera révélé. Ça ne fera pas forcément plaisir à tout le monde à ce moment-là, mais ça c'est un autre problème. Mais a priori, ce n'est pas de cela dont parle notre Seigneur. Il ne parle pas des défauts cachés. Quand il dit « et seul Dieu connaît le Fils », il ne parle pas des défauts cachés ou des péchés cachés. Il parle de quelque chose de plus profond. Il ne parle pas du fait « ah oui, hier soir ou avant-hier soir, j'ai bu une bière en cachette et puis mes parents, ils ne le savent pas. Ou alors j'ai regardé un film alors que les parents étaient couchés, j'étais rebranché à la télé. » Ou alors j'ai fait ça, ça et ça. Bah, ça semble pas tellement correspondre. Il va plus loin, il insinue quelque chose de bien plus profond que cela. Quelque chose qui découle, le terme découlé n'est pas bon. Quelque chose qui introduit une notion bien plus profonde, la notion d'un mystère en notre Seigneur, un mystère qui touche l'essence même, notre Seigneur. Certes, dans ces phrases-là, rien n'est dit de la divinité du Christ. Il présente juste. Mais, à côté de cela, même si la distance entre créateur et créature peut être maintenue, comme dans le passage de Saint Jean, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent », ce texte, cependant, suggère comme une égalité, le texte que j'ai cité précédemment, une égalité dans le domaine de la connaissance. Je suis le seul à connaître le Père, et le Père est le seul à me connaître. Égalité de la connaissance. S'il y a égalité de la connaissance, c'est-à-dire qu'il y a une similitude, voire une identité, entre la connaissance du Père sur le Fils et du Fils sur le Père. Il en résulterait, si on analyse un petit peu le texte, que le Fils connaît le Père de manière aussi parfaite que le Père connaît le Fils parfaitement et totalement. Or, qui peut connaître Dieu, si ce n'est Dieu lui-même? Encore une fois, tout ceci n'est absolument pas affirmé de façon formelle, et l'on peut très bien se borner à l'explication, on va dire, minimaliste. Ensuite, dernier point, dans cette partie-là, donc la partie adressée aux disciples, je vais accélérer un petit peu, Jésus appelle Dieu Abba, c'est-à-dire tout simplement, je dis, c'est un peu plus familier que Père, on pourrait dire Papa. Parfois ça peut sembler un peu cruche, je pense qu'on appelle tous notre Père Papa, peut-être pas forcément, mais bon. En tout cas, ça introduit une notion de familiarité, ou plus exactement d'intimité. Alors, quel est le contenu de cette invocation pour le sujet qui nous occupe? Alors, cette invocation exprime au minimum une relation d'amour extrêmement étroite entre Jésus et son Père, une familiarité qui tranche absolument avec la mentalité juive de l'époque de notre Seigneur. Au maximum, on y verra insinuer une certaine égalité entre le Père et le Fils. Cependant, là encore, il est impossible de trancher de façon absolue entre ces deux interprétations. Il convient donc de laisser à cette invocation sa profondeur, sa richesse et aussi sa part de mystère. Ce que l'on peut dire quant à l'enseignement de notre Seigneur à ses disciples, c'est que Jésus se manifeste comme ayant avec Dieu un rapport absolument unique d'intimité et de proximité. Deuxièmement, que cette intimité place Jésus au-dessus des anges du ciel. Elle le situe comme un être céleste en même temps que terrestre. Troisièmement, Jésus connaît le Père comme le Père connaît le Fils. par là est insinué que, puisque par nature le Père connaît parfaitement Jésus, ainsi Jésus connaît parfaitement le Père. Il se situe donc au-dessus de toutes les créatures qui, elles, ne peuvent connaître qu'imparfaitement le Créateur. Et enfin, quatrièmement, le terme « Abba » suggère qu'entre Jésus et son Père existe une intimité qui n'a aucune analogie dans le rapport des hommes avec Dieu, aussi privilégié soit-il. Dernière partie, l'enseignement de Jésus à des disciples privilégiés. Ce que je vous disais tout au début, afin de couper court tout de suite à toute similitude avec des œuvres ayant existé ou des personnages réels ayant existé, comme les disent généralement les fictions cinématographiques, on ne tombe pas dans le Da Vinci Code de Dan Brown. Ce n'est pas une espèce de gnose ou de théorie du mystère absolument cachée. Il est évident, et c'est reconnu, qu'il y a eu un groupe de disciples, on va le voir tout de suite, vous allez comprendre mieux, à qui notre Seigneur a révélé un certain nombre de choses en demandant de garder jusqu'à un moment donné, terme qu'il précise, cela secret. Il y a trois apôtres qui tiennent un rôle privilégié. En effet, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, dans trois circonstances mentionnées dans les évangiles. La guérison de la fille de Jaïr, la transfiguration et l'agonie au jardin des Oliviers. Saint Marc indique en outre au chapitre 1, verset 29, que ces trois apôtres sont les témoins de la guérison de la belle-mère de Saint-Pierre. Il est remarquable ensuite, quand on lit notamment les épîtres de Saint-Paul, de voir que ces trois apôtres, et Saint-Paul les décrit comme cela, sont considérés comme, par la suite, les colonnes de la communauté. Après l'ascension de notre Seigneur, saint Paul les décrit véritablement comme tels. Cette place privilégiée provient certainement des rapports plus étroits que ces apôtres avaient eus autrefois avec Jésus. Alors les traces d'un enseignement particulier, saint Pierre, saint Jacques et saint Jean sont les seuls témoins de la transfiguration et de l'agonie. Ils sont donc les seuls à pouvoir transmettre cet élément-là, non seulement aux autres apôtres, mais aussi aux foules. Par ailleurs, Jésus donne l'ordre à ses trois témoins de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, sinon quand le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. Saint Marc, chapitre 9, verset 9, on trouve aussi chez saint Matthieu. Alors cette mention est fort intéressante, car elle traduit la conviction qu'un aspect important du message évangélique a été communiqué non à tous les disciples, mais seulement à trois d'entre eux, et que sa diffusion devait être retardée jusqu'après la résurrection. Souvenez-vous de l'aspect pédagogique. Souvenez-vous de l'aspect professoral. Si vous avez une classe d'une douzaine d'élèves, dans les douze, il y en aura peut-être un, deux, trois dans le meilleur des cas, qui seront un peu plus doués que les autres, ou du moins un peu plus ouverts à recevoir votre enseignement. Et donc qui seront un peu plus aptes à comprendre la totalité de ce que vous avez à leur donner. Si tant est que vous ayez quelque chose à leur donner, ce dont je ne doute pas. Mais ça ne concernera pas forcément l'ensemble de vos élèves. Vous n'aborderez pas les mêmes sujets de la même manière avec toutes les personnes à qui vous devrez faire une conférence. Il y a un degré de pédagogie. Avec certains, on abordera les choses de manière plus concrète, ou en abordant sous tel ou tel angle, ou en préparant petit à petit. D'autres, on pourra y aller franchement, soit en balançant tout d'un coup, soit en y allant par gros blocs. Mais ça dépend des personnes à qui on s'adresse. Là, en l'occurrence, on voit bien quant à la transfiguration et à l'agonie, notre Seigneur a demandé à ces trois apôtres-là de garder cela pour eux et de ne pas le révéler avant la résurrection. Alors certes, on n'a aucun enseignement de notre Seigneur qui, dans les évangiles, serait réservé à un cercle restreint de disciples par rapport à sa divinité. En revanche, sur le plan historique, on sait que le surgissement extrêmement rapide après Pâques de la doctrine de la divinité du Christ ne peut s'expliquer que par un enseignement de Jésus sur ce point-là. Alors c'est vrai, il est alors tentant de mettre en liaison les deux. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous le disais, ça rentre dans l'ordre naturel des choses. Ça rentre dans le domaine de la pédagogie élémentaire. Cependant, il ne faut pas oublier que l'Évangile s'adresse à tous. Souvenez-vous de la citation, l'une des citations du début, où notre Seigneur rend grâce d'avoir rendu cela évident aux petits et non pas aux sages et aux puissants de ce monde. L'Évangile ne s'adresse pas à un cercle restreint. Donc si pendant un moment, pour une raison pédagogique, il a fallu restreindre l'enseignement à un certain nombre, c'était quelque chose de limité dans le temps. C'est-à-dire qu'après la résurrection, cela n'avait plus motif d'être. Enfin, et on arrive à la fin, je vous rassure, je vais bientôt vous rendre votre liberté. Si vous vous souvenez bien, dans la première partie où on parlait de Saint Jean, j'avais laissé en suspens la question qui concernait non pas la bonne foi de Saint Jean, mais sa vérité sur le plan historique. On ne niait pas que Saint Jean était de bonne foi quant à la transmission des paroles et des actes de notre Seigneur, mais en revanche, on pouvait se demander, en tout cas je laissais la question ouverte, de savoir si historiquement il ne s'était pas trompé ou laissé influencer par telle ou telle raison. Le quatrième évangile se présente comme l'œuvre d'un témoin et d'un témoin véridique. Saint Jean nous dit, chapitre 21, verset 24, « C'est ce disciple qui rend témoignage sur ces choses, et c'est lui qui les a écrites, et nous savons que ce témoignage est véridique. » Alors ce disciple est nommé comme le disciple que Jésus aimait, celui qui, au dernier pas, posa sa tête sur la poitrine de notre Seigneur. La tradition, depuis saint Irénée, identifie ce disciple avec l'apôtre saint Jean. Enfin, il faut noter que saint Irénée confirme le fait que le quatrième évangile a été écrit par saint Jean d'une part, et la qualité de témoin ensuite de saint Jean. Il faut se rappeler, ou savoir si vous ne le saviez pas déjà, que saint Irénée était très lié avec saint Polycarpe, évêque de Smyrne, et qui avait été un disciple de saint Jean. Donc il y avait eu cette transmission du donné et de plein d'autres choses de façon quasiment directe. Par conséquent, pour remettre un témoignage en cause ou pour douter de sa vérité historique, il faut des raisons. A priori, lorsque vous parlez les uns avec les autres ou lorsque vous écoutez une de nos conférences, vous venez en étant plus ou moins réceptif. Vous venez pas en tout cas en vous disant « Alors lui, il me fait une conférence, à la fin, c'est promis, je me le fais. J'écoute ce qu'il me dit, mais de toute façon, je pars du principe qu'il a tort et je me le cartonne à la fin. » Pour partir de ce principe-là, il faut être persuadé, doit voir un élément qui nous permette de dire que la personne soit est dans l'erreur. Si la personne n'est pas persuadée de cela, c'est simplement du jeu intellectuel, une controverse intellectuelle avec le simple plaisir de se cartonner la personne qui est en face. Je ne dis pas l'intérêt de ce jeu-là. On rentre dans un autre domaine, ce n'est pas vraiment la recherche de la vérité. Quant à saint Jean, nous n'avons aucun motif, aucune raison de penser qu'il soit dans l'erreur sur le plan historique. Donc aucun motif de dire ou de remettre en cause ce témoignage de saint Jean. Au contraire, on a des éléments et des personnes extérieures qui témoignent que saint Jean était bien l'écrivain du quatrième évangile, et qu'il était bien témoin oculaire de ce qu'il décrit. Donc, aucune raison de rejeter ce témoignage. Donc, au terme de cette enquête, il nous faut bien reconnaître qu'il y a un mystère du Christ. C'est au terme de la tradition évangélique, et non à son point de départ, que se révèle la véritable personnalité de Jésus de Nazareth, fils de Marie et fils de Dieu, qui nous a révélé qu'il existait avant la création du monde dans une gloire identique à celle du Père. On a essayé, tant bien que mal, de montrer que tel est bien le propos du quatrième évangile, présenter le véritable Jésus de Nazareth tel qu'il était en réalité, fils de l'homme et fils de Dieu, Dieu lui-même, sachant qu'il l'était, et le disant. En bref, on a voulu montrer que du point de vue exégétique, historique, critique et, je l'espère, loyal, on n'a aucune raison de refuser ou de mettre en doute la figure de Jésus, de l'histoire que nous présente le quatrième évangile, et les pères de l'Église, les conciles, et les témoignages surtout unanimes de 20 siècles de tradition chrétienne. Et j'espère pouvoir affirmer, en espérant ne pas manquer de respect, que si notre Seigneur avait eu entre ses mains, au cours de sa vie terrestre, le quatrième évangile, il aurait dit « c'est bien moi ». Voilà.